Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 28 août 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, l'armée est accusée d'avoir exposé les victimes du récent massacre de Barsalogo à une attaque d'un groupe djihadiste. Au Sénégal, l'armée a indiqué hier avoir intercepté près de 80 migrants alors qu'ils étaient à bord d'une pirogue à 80 km au large de Dakar. L'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello, demande aux belligérants d'appliquer un code de conduite pour mettre fin aux abus. Et dans l'autre partie magazine, Monseigneur Théophile Naré, évêque d'Okaya, exprime une profonde douleur face à la tragédie d'envergure inédite qui a touché Barsalogo samedi.
C'est un message qui invite à l'espérance. Au-delà de ce que nous avons vécu, nous ne devons pas baisser les bras parce que la vie continue.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise hier mardi contre 50 personnes, dont 3 Américains poursuivis pour la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Dans son réquisitoire, le ministère public a également demandé au tribunal de prononcer au profit de l'État congolais la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions. Depuis le 7 juin, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où sont incarcérés tous les prévenus, juge 51 personnes pour ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Un collectif de proches des victimes du récent massacre de Barsalogo dans le centre du Burkina Faso accuse l'armée d'avoir forcé les habitants à sortir de la ville, les exposant à une attaque d'un groupe djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts. Alexandrine Holognon.
Le collectif Justice pour Barsalogo a assuré dans un communiqué que des responsables militaires ont obligé à travers des menaces les populations à participer aux travaux pour creuser un fossé autour de la commune afin de servir de tranchée contre les terroristes. Les proches des victimes, auteurs du communiqué, se disent sidérés par l'attitude du gouvernement qu'ils accusent d'avoir falsifié les faits. Le collectif réclame que des enquêtes soient menées afin que toutes les responsabilités soient situées et demande au gouvernement de déclarer les personnes tuées martyrs de la nation. Aucun bilan n'a été communiqué par les autorités qui ont dépêché depuis dimanche 4 ministres et le chef d'état-major des armées à Barsalogo et à Kaya, chef-lieu de la région où des dizaines de blessés ont été acheminés après l'attaque de samedi. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque, indiquant avoir pris le contrôle du quartier général des milices burkinabé à Barsalogo.
Au Mali, les rebelles du Nord ont reconnu la mort de 7 de leurs membres lors d'une frappe de drone de l'armée hier. Selon un communiqué publié hier mardi, l'attaque a visé 2 de leurs véhicules. Au Sénégal, près de 80 migrants ouest-africains, dont plusieurs femmes et enfants, ont été interceptés, a indiqué hier l'armée. Ces arrestations surviennent alors que le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, dont le pays est confronté à un afflux de clandestins, entame une tournée ouest-africaine. Les détails avec Jean-Roger Billon.
76 candidats à l'émigration clandestine ont été interpellés dans la soirée du lundi 26 août par la marine sénégalaise alors qu'ils étaient à bord d'une pirogue à 80 km au large de Dakar. Parmi eux, 55 Sénégalais, 7 Gambiens, 11 Guinéens, 2 Maliens et un Bissau-Guinéen. Il y avait 6 femmes et 7 enfants selon les autorités. L'interception de l'embarcation s'est produite avant le début d'une visite du premier ministre espagnol Pedro Sanchez dans 3 pays de la sous-région réputés être des lieux de départ de l'émigration clandestine, à savoir la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Commencé hier soir à Nouakchott, la tournée de M. Sanchez, qui sera ensuite en Gambie, avant de terminer jeudi au Sénégal, a pour but d'inciter ces 3 pays à réduire autant que possible les départs de migrants vers les Canaries, marqués par une explosion du nombre des arrivées de migrants clandestins.
Le gouvernement espagnol a annoncé hier qu'il allait envoyer l'équivalent de 500 000 doses de vaccins dans plusieurs pays d'Afrique centrale afin de faire face à l'épidémie de Mpox. L'Espagne a indiqué à la Commission européenne qu'elle allait faire un don représentant 20% de son stock de vaccins, 60 000 ampoules correspondant à 500 000 doses de vaccins pouvant permettre de vacciner jusqu'à 500 000 de personnes. C'est ce qu'explique dans un communiqué le ministère espagnol de la Santé, qui ne précise pas quels pays sont concernés ni à quelle date dont les vaccins vont être envoyés. Madrid encourage ses homologues européens à faire don à leur tour de 20% de leur stock. En Algérie, des policiers ont arrêté hier l'opposant Fethi Gharez avant de l'amener vers un lieu inconnu. C'est peu avant l'élection présidentielle du mois prochain. Le point avec Nani Talani.
Fethi Gharez, 49 ans, responsable d'un parti interdit, a été arrêté par des policiers en civil à son domicile et conduit au commissariat central à Alger Centre, d'après son épouse Messaouda Chibala, qui est aussi militante politique, et le Sendel. Dans une vidéo sur Facebook, Madame Chibala explique que 3 agents en civil, sans ordre de convocation, ont arrêté son mari. Les policiers lui avaient affirmé qu'ils emmèneraient son époux dans un poste de police voisin. Mais lorsqu'elle s'y est rendue, d'autres policiers lui ont dit que Fethi Gharez n'y avait pas été emmené. Aucune déclaration officielle n'a été faite sur l'arrestation de M. Gharez, intervenue peu avant l'élection présidentielle du 7 septembre. Fethi Gharez a déjà été arrêté en 2021 et condamné à une peine de prison, accusé d'avoir insulté le président. En janvier 2022, il a été condamné à 2 ans de prison pour atteinte à la personne du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Il a été libéré en mars 2022 après avoir bénéficié d'une réduction de peine en appel. Figure de l'opposition laïque de gauche, M. Gharez a rejoint en 2019 le mouvement pro-démocratique Hirak, des manifestations de masse qui ont chassé du pouvoir Abdelaziz Bouteflika.
L'ONU et les États-Unis ont appelé les acteurs politiques en Libye à une réunion urgente. Une réunion qui vise à désamorcer la crise autour de la Banque centrale et le blocus de la production et des exportations de pétrole. L'émissaire américain pour le Soudan, Tom Perriello, a demandé hier aux belligérants d'appliquer un code de conduite pour mettre fin aux abus. Claire Morin-Gibourg.
L'armée soudanaise a reçu ce code de conduite selon Tom Perriello, qui a dit espérer obtenir une réponse dans les prochains jours. L'objectif n'est pas d'obtenir une signature sur un bout de papier, a-t-il précisé. Le viol et l'esclavage sexuel ne doivent plus être utilisés comme armes de guerre et les zones civiles, y compris les hôpitaux et les habitations, ne doivent plus être bombardés sans discernement, a ajouté l'émissaire américain. Des discussions sur le Soudan ont pris fin vendredi en Suisse, sans accord de cessez-le-feu, mais avec l'engagement pris par les belligérants de garantir un accès sans entrave aux humanitaires sur 2 grandes routes. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, accusés de nombreux abus au Darfour, ont accepté un code de conduite dans lequel ils s'engagent à ne pas commettre de violence à l'encontre des femmes et à ne pas détruire les récoltes. L'armée soudanaise ne s'est pas présentée au pourparlers en Suisse.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge du Texas a ordonné lundi la suspension de la politique visant à simplifier l'obtention d'un statut légal aux États-Unis pour les conjoints de citoyens américains, portant un coup à l'une des plus importantes mesures de réforme de l'immigration du président Joe Biden. Les précisions avec Dilly Dico.
Cette décision est une erreur. Il n'y a pas de raison de séparer ces familles. Elles doivent pouvoir continuer à vivre ensemble et mon administration va continuer à se battre pour elles, a réagi le président américain. Le juge J. Campbell Barker a suspendu pour 14 jours la mesure dans le cadre d'une procédure engagée par les procureurs généraux républicains de 16 États américains contestant cette politique de l'administration Biden. En juin, Joe Biden a annoncé une mesure destinée à simplifier l'accès à la citoyenneté pour environ 500 000 de migrants mariés à des Américains. Les 16 États qui ont intenté ce recours en justice estiment que cette politique coûte des millions de dollars aux services publics en matière de santé, d'éducation et de maintien de l'ordre. Les demandes sont substantielles et méritent un examen plus approfondi que ce que le tribunal a pu se permettre jusqu'à présent, a écrit le juge Barker dans son ordonnance. L'administration Biden s'est efforcée d'agir en matière d'immigration, un sujet qui divise de nombreux Américains à l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
L'Afrique subsaharienne devrait compter 320 millions d'abonnements au réseau de téléphonie mobile 5G en 2029 contre 11 millions seulement en 2023. C'est ce qu'indique un rapport publié par Ericsson, le géant suédois des télécommunications. L'agence Ecofin souligne que le nombre total d'abonnements aux services de téléphonie mobile en Afrique subsaharienne devrait quant à lui passer de 950 millions en 2023 à 1,170 milliards en 2029, ce qui représente le taux de croissance annuel moyen le plus élevé au monde, soit 4% par an. Au Gabon, Digitax porte ses fruits, souligne Financial Afrique. Selon des données publiées par le ministère gabonais de l'économie, la Direction générale des impôts a collecté 258 milliards de francs CFA de recettes fiscales grâce à Digitax. Digitax est une plateforme qui facilite le paiement en ligne des impôts et taxes par les grandes entreprises et moyennes entreprises.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Début ce mercredi des Jeux paralympiques à Paris.
Oui, deux semaines après la fin des JO, Paris veut à nouveau susciter le plus grand enthousiasme pour ces Jeux paralympiques, les premiers de l'histoire sur le sol français, comme pour la cérémonie des JO, la première de l'histoire hors stade. Celle des Jeux paralympiques se déroulera aussi en dehors d'une enceinte sportive. La plupart des 4400 athlètes sont attendus entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde pour un spectacle intitulé Paradoxe. Pour ce qui est de la billetterie paralympique, environ 2 millions de tickets ont été alloués ou vendus sur 2,5 millions mis en vente en octobre dernier. Au total, 168 délégations vont s'affronter dans les 22 disciplines des Jeux. La cérémonie de clôture est prévue le 8 septembre au Stade de France.
L'Allemand Bruno Labbadia nommé sélecteur du Nigeria.
L'annonce a été faite par la Fédération nigériane de football. Bruno Labbadia, 58 ans, succède au Nigérian Finidi George, pourtant nommé fin avril, mais ce dernier a été renvoyé pour mauvais résultats. Logé dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Avec seulement 3 points en 4 matchs, les Super Eagles sont en mauvaise posture. Le technicien allemand va diriger d'abord les coéquipiers de Victor Osimhen contre le Bénin et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 le mois prochain. Le Nigeria accueille le Bénin à Ouyo le 7 septembre avant de se rendre au Rwanda. 3 jours plus tard.
Et puis dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, le Cameroun accueille la Namibie le 7 septembre. Mais dans quel stade? C'est la grande question.
La Fédération camerounaise de football avait souhaité initialement jouer au stade de la réunification de Douala avant de se rabattre sur le stade Rumde Adjia de Garoua, ce qu'a accepté la CAF. Mais d'après le site d'information camerounais Actu Cameroun, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs a notifié à la FECAFOOT la non-disponibilité de ces deux enceintes. D'après Actu Foot, lors d'une réunion vendredi dernier, le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kambi, a indiqué que ce match se jouera au stade Omnisport de Yaoundé. Comment comprendre ces problèmes liés au choix du stade pour ce match Cameroun-Namibie, suivant les explications d'Élise Kenembeni, journaliste à Time News Group.
Il y a la FECAFOOT qui souhaite que le match se joue au stade Rwanda Adja de Garoua. Il y a le ministère de Sport et l'Éducation Physique qui est justement la tutelle de la FECAFOOT qui souhaite que le match se joue plutôt à Yaoundé, tout comme l'ONIES, l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs au Cameroun. Alors et qui est justement piloté par l'ancien lion indomptable Joseph Antoine Bell et qui a d'ailleurs justement à travers un communiqué signifié que le match ne pouvait pouvait pas se jouer ni à Japoma au vu du climat actuel, parce qu'à Douala, il pleut hein, tous les jours. Et il a également signifié le fait que le stade Amadou Ahidjo, qui est justement basé à Yaoundé, était mis à disposition pour le match du 7 septembre. L'Africa Foot également, qui n'attend pas hein, justement se laisser marcher dessus, avec son président Samuel Etofis, que vous connaissez très bien. Ils exigent justement que le match se joue du côté de Yaoundé Adja.
Élise Kenembeni, journaliste à Time News Group.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'évêché de Kaya exprime une profonde douleur face à la tragédie d'une envergure inédite qui a touché Barcelogo samedi. Plus de 100 civils ont perdu la vie lors d'une attaque armée. Dans une lettre pastorale, l'Église appelle les fidèles à ne pas succomber au désespoir et encourage la communauté locale à observer une journée de deuil diocésaine. Eric Manilakidza a joint Monseigneur Théophile Naré, évêque de Kaya.
Donc il était normal que j'invite l'ensemble des chrétiens du diocèse à compatir à la souffrance de leurs frères et sœurs qui ont subi cette tragédie de Barcelone. Ceux qui sont décédés, que nous puissions ensemble invoquer le Seigneur pour leur repos éternel. Les blessés, que nous puissions prier pour eux, les secourir. Et tous ceux qui ont été meurtris par cette tragédie, que nous puissions leur manifester notre proximité, notre solidarité, notre compassion. C'est cela qui m'a motivé à écrire ce message pastoral.
Vous parlez d'une tragédie d'une ampleur sans précédent dans votre région. Ce n'est pas la première, mais vous demandez à vos fidèles de garder courage.
C'est un message qui invite, oui, à l'espérance. Au-delà de ce que nous avons vécu, nous ne devons pas baisser les bras parce que la vie continue. La vie continue. Et donc, si nous ne voulons pas que ce qui est arrivé se répète, il nous faut vivre et agir de telle sorte que de tels drames soient évités à l'avenir.
Vous dites également dans votre message que vous ne pouvez pas garder silence par rapport à ce qui s'est passé.
Mais parce qu'il y a en nous quelque chose qui crie devant la souffrance, mais l'être humain manifeste sa peine. Il est donc normal que devant ce qui est arrivé, nous manifestions notre douleur, notre tristesse. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tristesse ne doit pas nous amener à être abattus au point de ne plus pouvoir agir. Parce que si nous n'agissons pas, justement, ce qui nous a conduit à ce désastre risque de se reproduire.
Est-ce que vous auriez le bilan définitif des personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque?
Non, je ne peux pas vous donner ce renseignement parce que je n'ai pas les moyens d'avoir de telles informations. Et je pense que ceux qui sont chargés de faire de telles enquêtes feront leurs enquêtes et qui pourront nous dire ce qu'ils auront découvert. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes touchées, ça oui, mais nous dire combien ils sont, je ne saurais pas vous le dire. Je n'ai pas les moyens de faire une telle investigation et de vous donner une réponse.
Vous avez parlé aux autorités pour prévenir ce genre de tragédie?
Les autorités étaient prévenues, ce n'était pas à moi de les prévenir. Les autorités étaient prévenues et elles prennent leurs responsabilités. Moi aussi, je prends les miennes par rapport à ma communauté des fois. Je ne suis pas le gouverneur de la région du Centre-Nord. Je suis simplement le maire du diocèse de Kaya. Et je ne pense pas que les autorités politiques comptent sur moi pour être renseignées sur ce qui s'est passé là-bas.
Monseigneur Théophile Naré, évêque de Kaya au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le gouvernement américain finance plusieurs projets dans le secteur de la santé à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID. L'un de ces projets intitulé « Accroître la disponibilité des projets de santé au niveau des sites » est mis en œuvre depuis décembre 2023 avec comme objectif un approvisionnement durable en médicaments contre le VIH-SIDA et l'amélioration des délais de livraison dans les formations sanitaires. Plus de détails dans ce reportage d'Emmanuel Juntap.
Douala est la deuxième ville du Cameroun après Yaoundé, où l'on retrouve le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH-SIDA.
J'ai constaté que je viens à mon rendez-vous, les médicaments sont toujours disponibles.
Ce témoignage est d'une jeune dame atteinte du VIH depuis plus de 10 ans. Elle est filmée à visage non découvert.
J'ai eu à poser des questions à la dame qui me suit, mais hier, je constate que à chaque fois maintenant je viens, j'ai mes 3 mois, quand je demande 6 mois, il y a, et pourtant avant il n'y avait pas, elle m'a fait comprendre que non. Et un partenaire qui est là maintenant, le projet ISA, c'est lui qui veille à ce qu'il y ait des médicaments. Ça nous encourage, nous les patients, à continuer et à rester sous traitement et à avoir une charge virale indétectable.
Des camionnettes d'une capacité de 7 tonnes, comme celle-ci, assurent la livraison des intrants et médicaments contre le VIH-SIDA dans le cadre du projet ISA. Ce matin est jour de ravitaillement de cette formation sanitaire privée située au quartier Lokbaba à Douala. Ici, 294 patients sont sous traitement.
Dans le cadre du projet ISAC, nous avons reçu comme médicament aujourd'hui les intrants VIH, parmi lesquels nous avons une partie pour la prise en charge pédiatrique et une autre partie pour la prise en charge adulte, sans oublier les tests de dépistage. Le projet ISAC a apporté un plus effectivement dans notre formation sanitaire, surtout pour les patients, ils ont une possibilité plus facile de s'approvisionner.
Comme dans ce centre médical d'arrondissement de l'État, 315 patients sont sous antirétroviraux. Le projet du gouvernement américain a positivement impacté les patients qui résident loin du centre médical. C'est depuis décembre 2023 que le projet ISAC est mis en œuvre en faveur de 58 formations sanitaires de la région de littoral. Depuis un an et demi, le projet s'étend sur les 10 régions du Cameroun.
Le projet ISAC est financé par PEPFAR, le plan d'urgence du président américain pour lutter contre le VIH-SIDA, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui est USAID, et est mise en œuvre par un partenaire local, qui est le Fonds régional pour la promotion de la santé du littoral.
Le Fonds régional pour la promotion de la santé est le partenaire local du projet ISAC. Cette structure du ministère camerounais de la Santé publique coordonne la distribution des médicaments contre le VIH-SIDA et les programmes de santé financés par les États-Unis dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose.
Chaque mois, en 3 jours, on arrive à livrer les médicaments sur site, c'est-à-dire au niveau de la formation sanitaire. Donc on couvre l'ensemble des sites de la région littorale. Donc c'est un projet qui nous permet non seulement de rendre disponibles le produit à temps, à des délais très courts, mais également de suivre l'utilisation de ce produit pour qu'il n'y ait pas de perte et d'accompagner les gestionnaires de ce produit.
En janvier 2024, 50 à 60% des financements annuels des projets de l'USAID au Cameroun étaient orientés vers la santé et l'assistance humanitaire. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
119 ans après la publication du premier dictionnaire allemand Ewe par un chercheur allemand, un dictionnaire Ewe français voit aussi le jour. C'est l'œuvre d'un Togolais et le document a la particularité de relancer le débat sur l'importance de la langue maternelle dans les processus d'apprentissage en Afrique. Reportage de notre correspondant à Lomé, Amen Assigno.
En tout, 120 000 mots, expressions, locutions et termes français traduits dans la langue Ewe ont été répertoriés dans cet ouvrage de 560 pages par le chercheur togolais Kuizian Baba. Fruit de 10 années de recherche, ce dictionnaire est une contribution à la promotion de l'Ewe, l'une des langues les plus parlées au Togo et aussi dans le golfe de Guinée. L'auteur a mis l'accent sur la lexicologie, la lexicographie Ewe et la philologie d'anciens documents et textes Ewe pour concevoir son nom.
J'ai pris en compte la géographie. La géographie, puisque ça parle du peuple élevé, la langue élevée, c'est-à-dire l'air culturel élevé. Donc, c'est du Togo jusqu'au Ghana, une partie même du Bénin aussi. Et donc, à cet aspect-là. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur les variantes lexicales les dérivés de l'EV. Et après, sur le plan scientifique aussi, il y a plusieurs notions, plusieurs concepts qui ont été développés.
Au-delà de l'objectif d'enrichissement de la langue EV, l'ouvrage de Cuisian Baba suscite le débat sur l'enseignement de la langue maternelle dans les écoles. Les spécialistes de l'éducation estiment l'usage de la langue maternelle essentiel pour améliorer les acquis de l'apprentissage et les performances scolaires. Ils précisent que c'est un facteur majeur d'inclusion et d'apprentissage de qualité. Cependant, la triste réalité est qu'en Afrique subsaharienne en l'occurrence, les systèmes scolaires mettent plus l'accent sur l'enseignement dans les langues étrangères.
Oui, c'est le gros défi de beaucoup de pays africains, hein, dont le Togo. Depuis les indépendances, il y a toujours cette volonté exprimée et maintes fois d'arriver à faire de nos langues nationales des langues d'enseignement. Parce qu'il est connu, avec UNESCO et d'autres acteurs, que l'enseignement ne réussit bien que dans les langues de socialisation des élèves. Et en partie, nous savons que les faiblesses de nos systèmes scolaires, là, c'est lié aux langues d'enseignement.
L'autre défi pour asseoir une langue d'enseignement est de concevoir des manuels didactiques qui reflètent les réalités socioculturelles des apprenants, une problématique à laquelle répond ce dictionnaire. La démarche vise à encourager l'adoption de politiques linguistiques et éducatives intégrées.
Nous sommes plus de 5 millions à parler, même 7 millions à parler EV, du Togo jusqu'au Ghana. Et même si on ajoute même le Bénin, nous avoisinons 10 millions. Donc c'est grand. C'est grand, alors que nous n'avons pas nos propres manuels scolaires. Voilà. Donc, nous, notre ambition, c'est faire en sorte que nos réalités soient prises en compte sur le plan scientifique, sur le plan sociologique, anthropologique.
La langue est le premier marqueur de l'identité d'un peuple, d'où l'importance de s'approprier et de valoriser les langues maternelles africaines. Aména Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Parlons maintenant d'une Espagnole d'origine malienne nommée Adiaratou Iglesias. Lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, elle ne savait pas qu'elle avait remporté une médaille d'or aux 100 mètres et une d'argent aux 400 mètres T13, réservée aux athlètes ayant une déficience visuelle, jusqu'à ce qu'on le lui dise. À la veille de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, Nathalie Barge nous parle de cet athlète pas comme les autres.
L'athlète espagnol Adi Iglesias, né au Mali, est atteinte d'albinisme, une maladie génétique qui inhibe la production des molécules de mélanine pigmentant la peau, les cheveux et les yeux. Sa perception visuelle est altérée à 90%, ce qui lui donne une vision de 20% avec des lunettes correctrices épaisses.
Non, je ne sais nada cuando cruzo la meta, o sea, porque al final...
Je ne sais rien quand je franchis la ligne d'arrivée, car je n'ai pas de vision périphérique et je ne regarde pas parce que je suis très concentré sur la compétition. Dans ce cas, c'est vrai qu'ils me disent toujours quand j'arrive, Adi, tu es arrivé la première ou deuxième ou quelque chose comme ça. C'est aussi vrai que parfois on le devine par le sentiment qu'on éprouve.
Adi Iglesias, qui arbore un tatouage du logo de Tokyo 2020 sur son poignet, s'attend à recevoir un nouveau pour Paris 2024. Au Japon, elle n'avait pas pu avoir sa famille au stade en raison de la pandémie de coronavirus. Elle était donc très excitée de voir sa mère adoptive, Lina, dans la capitale française. Lina Iglesias est restée confuse à l'idée de voir une nouvelle victoire de sa fille.
Pour moi, ce serait très excitant, mais vous savez, je ne pense pas que ce serait beaucoup plus que je ressens à chaque fois que je la vois gagner ou courir. Parce que quand je la vois courir, je ne sais pas, j'ai vu des courses.
Les parents biologiques maliens d'Adi ont décidé de l'envoyer en Espagne quand elle avait 11 ans pour éviter qu'elle ne subisse des attaques liées à son albinisme. Après avoir passé 2 ans dans un refuge pour enfants à Logroño, dans le nord de l'Espagne, elle a été adoptée en 2013 et a déménagé à Lugo.
llegado hasta donde quería llegar, de verdad. Y siempre lo digo y la gente me dice, pero precisión en los Juegos Paralímpicos.
Je suis allée aussi loin que je le voulais, vraiment. Et je le dis toujours, et les gens me disent, mais ce sont les Jeux Paralympiques à Paris cette année. Et ce n'est pas que je m'en fiche, car je suis encore là pour ça. Mais j'ai déjà eu ce à quoi tout athlète aspire, c'est-à-dire une médaille, et pas seulement une, mais deux. Mon rêve s'est donc réalisé. Maintenant, je me fixe des objectifs.
Entonces, mi sueño realmente se ha cumplido. Ahora mismo son objetivos.
Adi Iglesias passe la majeure partie de son temps dans un centre de haute performance pour athlètes à Madrid. Mais dans sa chambre d'enfance à Lugo, elle garde précieusement ses médailles olympiques ainsi que deux médailles d'or remportées au championnat d'Europe 2021 et deux d'argent gagnées au championnat du monde 2019.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Munezero, à la mise en onde, Firmin Koyaouida. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.